Les espèces animales et végétales deviennent de plus en plus rares sur notre planète. Surtout, celles qui vivent en eau douce. Leur disparition a atteint un rythme jamais observé dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de plan préétabli par l'homme. C'est notre manière de vivre qui impacte l'environnement. Certaines espèces sont extrêmement sensibles à la pollution et à la modification de leur habitat, et d'autres ont besoin de temps pour grandir et se reproduire. Parfois, il ne reste que quelques individus et très peu de temps pour agir.
La grande mulette est une espèce et l'une des espèces les plus grandes et les plus rares d'invertébrés d'eau douce d'Europe. Historiquement, c'est une espèce qui était présente sur la quasi-totalité des grands fleuves d'Europe de l'Ouest, mais le nombre d'individus a peu à peu diminué jusqu'à la considérer comme disparue au début du XXe siècle. Et en fait, elle a été redécouverte dans les années 80-90.
Un premier individu de cette espèce-là a été retrouvé très proche de Chinon, sur la Vienne en fait. Certaines rivières, on ne trouve plus que des individus morts, c'est-à-dire des coquilles, des valves sans vie. Et là, les populations pensent qu'elles sont éteintes.
Pouvant atteindre 18 cm et un poids de 500 grammes, cette moule peut vivre environ 80 ans. Elle est facilement identifiable par sa forme en oreille. Son rôle est très important pour l'écosystème fluvial. Elle filtre l'eau.
À chaque année, la moule, la coquille de la moule, il produit une couche et il intègre les éléments chimiques qui sont dans l'eau. Donc, on peut faire des carottages dans la coquille et on peut analyser la composition chimique qu'il y a dans les différentes couches. Donc, on peut analyser toute l'histoire de la chimie de l'eau pendant la vie de cet animal. Mais la particularité de la grande mulette, c'est que c'est un animal qui a une espérance de vie assez large. Donc, on peut, dans une même coquille, on peut trouver 70 ans environ dans la coquille. Donc on peut analyser toute l'histoire, ce qu'il y a passé dans la rivière pendant ces temps.
Il y avait déjà une première étude bibliographique qui avait permis de déterminer la présence historique de l'espèce en Europe, mais il fallait encore visiter les muséums régionaux pour aller voir si dans ces muséums il y avait présence ou non de coquilles. Et à partir de ce travail, on a aussi identifié des zones où on a retrouvé des coquilles alors qu'on ne savait pas que potentiellement elle était présente historiquement sur ces zones. Donc ça nous a permis, après coup, d'aller faire des prospections sur ce cours d'eau, en l'occurrence l'Arros dans le bassin de la Dour, et ça nous a permis donc de découvrir une nouvelle population de grandes mulettes. Et ainsi d'actualiser la carte, pas cette fois-ci historique, mais la carte actuelle de distribution de l'espèce en France. Et donc le but, effectivement, c'était d'essayer de mieux connaître cette espèce. Donc d'essayer de mettre en place un programme de recherche de façon à répondre à un certain nombre des interrogations sur son écologie. Et en même temps, il y a eu des inventaires et des prospections qui ont été faits qui ont montré que le nombre d'individus tous les ans qui étaient identifiés, recensés, diminuait. Donc le but, effectivement, comme on est sur une espèce en voie d'extinction, en danger critique d'extinction, le but c'était de mettre en place un programme qui permettait à la fois de répondre au manque de connaissances qu'on a sur l'espèce et en même temps de pouvoir mettre en place un programme de reproduction et de conservation. Donc ça a mis un certain temps à se mettre en place et le dispositif LIFE, c'est-à-dire c'est l'instrument financier européen pour l'environnement, a paru être l'outil le plus adéquat en fait pour mener à bien et la partie recherche et la partie conservation de l'espèce.
Ce programme LIFE, il a l'originalité qu'en fait, il est porté par une université et du coup, il inclut une grande part de recherche, ce qui est peu courant. Les programmes LIFE, en général, portent vraiment sur de la conservation, mais sauf qu'on ne peut pas conserver une espèce qu'on ne connaît pas. Donc il a fallu vraiment adosser tout un pôle de recherche et c'est là où l'Université de Tours s'est saisie en fait de cette opportunité puisqu'on a un pôle extrêmement compétent de chercheurs en écologie des milieux aquatiques et sur les populations, la gestion des populations. Et du coup, les deux associés, les fonds européens pour la conservation plus la recherche, ont permis d'avoir les résultats qu'on a eus et qui sont vraiment très encourageants.
Donc pour trouver les grandes mulettes en cours d'eau, on a plusieurs techniques. Soit le niveau d'eau est suffisamment bas et on a des eaux claires, dans ce cas-là, on travaille à l'aide d'un aquascope. Donc on regarde en fait dans l'aquascope et on prospecte à pied dans la rivière. S'il y a trop d'eau, on utilise les techniques de plongée habituelles. Donc là, ça demande plus de personnel et c'est très chronophage. Et donc il y a une nouvelle technique qui a été développée par les bureaux d'études Biotope SpyGen en collaboration avec l'Agence française de biodiversité. Et donc en fait, c'est une technique qui est basée sur l'analyse de l'ADN environnemental. C'est-à-dire que toute espèce, nous, les poissons, les oiseaux, les moules, lâchent dans le milieu des petits fragments d'ADN qui permettent ensuite, pour les moules en tout cas, on fait un prélèvement d'eau, l'eau est analysée et on arrive à extraire tous les fragments d'ADN qui sont présents dans l'eau. Donc ça, on arrive à faire la liste de toutes les espèces de moules présentes. Donc c'est une technique qui ne coûte pas très cher, qui ne demande pas beaucoup de personnel et qui permet d'avoir une vision globale en un point donné de la présence ou de l'absence de l'espèce. Ensuite, ça nécessitera d'autres prospections pour voir si le nombre d'individus, la localisation, dans quel substrat, etc. Mais déjà, on sait si elle est présente ou non.
Nous avons achevé pas mal des résultats dans ce projet. On a pu montrer que même âgées, les populations en France sont toujours capables de se reproduire.
Malgré une apparence simple, le cycle de vie de la grande mulette est complexe. L'adulte, enfoui en partie dans les sédiments, filtre une grande quantité d'eau pour se nourrir d'algues microscopiques et de bactéries. En période de reproduction, la grande mulette produit des œufs qui se transformeront en larves au sein de sa coquille. Au début du printemps, elle attend le passage d'un poisson compatible pour lâcher ses larves. Le poisson hôte, ici un esturgeon, ne se doute pas qu'il va être le porteur de bébés moules. Elle expulse un jet blanchâtre par une contraction rapide de ses valves qui sera aspirée par l'esturgeon européen. Au passage de ses branchies, les larves appelées glochidies vont s'y accrocher et s'y enquister afin de profiter du poisson pour grandir, s'alimenter et voyager. L'esturgeon est un poisson migrateur qui peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres dans la rivière. Cette cohabitation va durer 4 à 5 semaines, le temps que les larves se transforment. Les glochidies sont alors devenues de microscopiques juvéniles qui peuvent désormais quitter leur hôte. Tombées au fond de la rivière, elles pourront s'enfoncer dans les sédiments où elles vont grandir. Les juvéniles produiront de petites moules qui grandiront et pourront se reproduire à nouveau.
Il faut savoir que les juvéniles de la grande mulette sont les plus petits dans toutes les espèces de moules d'eau douce. Et ça, c'est problématique parce qu'il y a un taux de mortalité très élevé.
Dans des conditions optimales, des millions de larves sont expulsées par une moule adulte. Des milliers de juvéniles se détacheront des branchies des poissons. Des centaines de petites moules vont se développer et seulement une dizaine atteindra l'âge adulte. Aujourd'hui, il reste environ 100 000 individus vivants, mais il n'y a quasiment pas de jeunes mulettes. Ce chiffre reste très faible pour une espèce de moule et la quasi-absence de jeunes compromet sa survie. Que se passe-t-il ? Pourquoi la reproduction de cette espèce s'est-elle arrêtée ? C'est cette question qui a poussé les scientifiques à se lancer dans le sauvetage de l'espèce.
Donc l'objectif de la campagne de prélèvement aujourd'hui, c'est de ramener sur le site de Chinon, où se déroule la partie laboratoire, reproduction, etc., des géniteurs moules, Margaritifera aurcularia, pour pouvoir après récupérer les glochidies lorsqu'elles seront expulsées en aquarium. cette moule, on va la glisser dans une petite chaussette pour la numéroter, l'identifier. Et ce qui va nous permettre, avec ce marqueur, d'être sûr de pouvoir réinstaller la moule à l'endroit où on l'a prélevée, en fait.
Donc voilà. Celle-ci, elle a déjà été prélevée. Donc nous, ça nous permet aussi de démontrer derrière. On a déjà vu que des moules qui avaient été prélevées il y a 2 ans ont redonné l'année suivante. Donc comme quoi finalement le fait de les ramener en laboratoire, de les remettre à l'eau, ça les traumatise pas au point qu'elles sont capables de se reproduire encore. Si elle est bien fermée.
Sur les moules, les 20 moules qu'on a prélevées, en fait, on va les sortir, vérifier leur étiquetage. Donc la première chose qu'on va faire, c'est mettre une étiquette. Poser une étiquette pour avoir une référence entre le numéro qu'on a installé au fond de la rivière et puis la moule sur laquelle on va travailler. Donc on va les étiqueter, toutes les individualiser. Et puis après, on va les mesurer. On va les mesurer en longueur, en largeur, en épaisseur. On ne va pas les peser aujourd'hui. Et puis, une fois que tout ça s'est fait, ben, on va les positionner dans la glacière pour le transport vers Chinon. On va remplir une cuve avec de l'eau de la Charente. L'objectif, c'est vraiment de conserver au maximum les caractéristiques du milieu dans lequel elles sont pour pouvoir après les ramener tranquillement dans la rivière.
Arrivé à Chinon, au pôle universitaire de l'eau, spécialisé dans le fonctionnement écologique et la gestion patrimoniale des cours d'eau, la récolte pourra prendre place dans les aquariums. Au cours du printemps, les moules vont expulser leur glauchidie. Les chercheurs pourront alors prélever les larves afin de poursuivre leur protocole de recherche. Les moules seront réintroduites à l'endroit précis de leur prélèvement, dans le sens du courant, grâce aux marqueurs laissés sur place.
En fait, on imite la nature et on fait la même chose au laboratoire. On prend les glauchidies des moules qu'on a récupérées de la rivière et on met en contact les poissons et les glauchidies. Et après, la nature fait le reste.
Ces petites larves ont quelques heures, éventuellement quelques jours, pour trouver un poisson hôte. C'est-à-dire un poisson dans lequel elles vont s'enquister généralement au niveau des branchies. Et là où l'affaire se corse, c'est que notre mulette, historiquement, son poisson hôte, c'est l'esturgeon européen. Seulement voilà, ça fait largement plus d'un siècle qu'on n'a plus d'esturgeon européen dans nos rivières. Donc ça veut dire qu'en dehors de l'esturgeon, il y a au moins une autre espèce de poisson qui peut servir de poisson hôte. Et si on regarde les mulettes à l'échelle mondiale, on s'aperçoit qu'il y a un fort lien historique entre des espèces de poissons migrateurs, donc qui vont faire un cycle alterné entre la mer et l'eau douce, et ces mulettes-là. Donc on a fait un focus sur les poissons migrateurs présents dans la Vienne, la Creuse et la Charente. Donc parmi ces poissons migrateurs, la lamproie s'avérait un très bon candidat, puisque sa période de remontée en eau douce pour les géniteurs se situe à peu près à la même période que l'émission des glauchidies. C'est un poisson qui se fixe sur le fond pour se reposer ou qui se reproduit aussi sur le fond. Donc le protocole est le suivant. On va faire une infestation des lamproies avec les larves de glauchidies qui sont récupérées auprès de mulettes que nous avons en aquarium ici, mais des mulettes sauvages. Et dans le protocole, au bout de 24 heures, on regarde s'il y a des glauchidies dans les branchies et super, il y en a. Donc on est très très contents. Donc vous voyez ici le support d'un filament branchial et la petite tache dorée presque que l'on voit ici, qui a la forme d'un petit D, la lettre D, est en fait une larve. La première étape est franchie. Les mulettes sont capables de s'accrocher aux branchies des lamproies. Si on fait un contrôle à mi-parcours, c'est pour être sûr que par exemple le poisson ne développe pas un mécanisme de défense qui pourrait tuer ces petites larves ou ces petites moules. Voilà. Et là, ben, on a la phase de parasitisme qui s'est complètement développée dans les branchies et on a bien beaucoup de bébés moules qui sont sortis. Aujourd'hui, celle-ci, cette lamproie-là, nous a donné 13 785 bébés moules.
Au final, ça serait quand même de trouver une espèce de poisson hôte qui serait relativement facile à capturer, à infester, et que l'on puisse, immédiatement après l'infestation, remettre dans le cours d'eau pour avoir un minimum de perturbations possibles, et puis pour aussi réenclencher un cycle naturel.
Et donc, dans le cadre de notre projet Live Grande Mulette, l'idée, c'était vraiment d'avoir des laboratoires qui soient mobiles, qu'on puisse transporter au bord de l'eau pour reproduire l'espèce directement sur place, et qui ait vocation comme ça à pouvoir aller sur différents cours d'eau, voire servir plusieurs espèces ou plusieurs structures qui veulent travailler sur la mulette. Et donc l'idée, ça a été donc de concevoir quelque chose qui soit mobile et également dans les plans en fait, de pouvoir diffuser largement pour permettre de travailler sur d'autres espèces.
Bah, on a réussi ce qu'on cherchait à faire. C'est déjà avoir l'outil correspondant parfaitement à la demande pour pouvoir faire de la mulette et pouvoir répondre aussi à créer tout ce qui était bassin spécifique, matériel spécifique pour les différentes étapes et les différentes procédures dans le développement des glochidies, de la récupération des juvéniles et autres.
On récupère les juvéniles qui tombent des branchies de poissons. Après, on les nettoie, on les compte, et après on les met dans des sauches qu'on a dans les laboratoires mobiles, et sont avec un circuit d'eau en continu. Et on les nourrit avec des algues vertes.
Nous ne savons toujours pas exactement, nous ne connaissons pas encore l'écologie des juvéniles en détail. Un autre problème qui se trouve, c'est que les animaux ne se reproduisent qu'une seule fois par an. Ça nous laisse une tire d'action qui est très très limitée sur quelques semaines pendant l'année pendant laquelle on peut produire des juvéniles. Les sensations qu'on a quand on lâche les premiers juvéniles, bien sûr, c'est une réussite, c'est un rêve qu'on a eu et maintenant que ça fonctionne. On a l'espoir que ces juvéniles vont bien sûr croître et se développer et on va veiller sur cela dans les années à venir. Et on a aussi l'espoir que si cette technologie fonctionne bien, qu'on peut repeupler les fleuves en Europe avec cette espèce patrimoniale.
Sauver la grande mulette est une histoire de scientifiques passionnés. Le projet doit s'arrêter faute de financement, mais ils ne semblent pas encore résignés.
On va continuer à aller sur le terrain pour suivre les mulettes, voir l'évolution, parce qu'on a quand même réussi à reproduire la grande mulette. On en a quand même produite un peu plus de 100 000 sur 4 ans et on a réussi à en réintroduire 2 000. Ce qui est une très belle avancée et surtout ce qui est porteur, on va dire, d'avenir. Il faut persévérer dans tout ce qui va être élevage, notamment, pour essayer de réintroduire des mulettes un peu plus âgées, de leur donner encore plus de chances de survie. Et puis après, sur tout le travail de recherche qu'il y a à côté, sur la question des poissons hôtes, pour pouvoir remettre à l'eau, par exemple, des poissons hôtes infestés et essayer, on va dire, de une réintroduction la plus naturelle possible.
Les lamproies nous ont fourni, après différents contrôles, des petites glochidies enkystées qui ont grandi. Et là, on a la phase de parasitisme qui s'est complètement développée dans les branchies. Et on a bien beaucoup de bébés moules qui sont sortis. Et ça offre des perspectives.
On peut toujours optimiser techniquement les choses. On peut toujours créer, à la demande de chercheurs, des prototypes ou des choses comme ça. Mais ça peut permettre de mener d'autres actions suite au LIFE sur le site de continuité et de réintroduction.
Maintenant, ce qui reste à faire, c'est renforcer les populations parce qu'on est sur un nombre d'individus qui diminue quand même tous les ans. On a une population qui est très âgée. Donc le but, ce serait effectivement de renforcer la population en réintroduisant un maximum de jeunes mulettes de manière à avoir toutes les classes d'âge et faire en sorte que la population se rétablisse sur les différents cours d'eau.
Nous avons eu des succès avec les poissons hôtes alternatives. Il faut maintenant faire des actions, de les pêcher avec la pêche électrique et ensuite les lâcher, charger des juveniles pour qu'ils dispersent les juveniles au futur. Mais pour cela, il faut avoir un soutien financier significatif et nous restons optimistes pour le trouver et pour pouvoir financer des projets au futur.
Le plus important, c'est trouver les causes des les manques de reproduction, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour sauver la carmoulette.
C'est une espèce un petit peu particulière de par sa longévité. C'est une espèce qui est indigène à nos rivières et voilà pourquoi elle est sauvée. L'objectif des LIFE, c'est effectivement d'essayer de préserver des espèces un petit peu phares sur le territoire national, quoi.
Si je peux utiliser le mot de Martin Luther, il aurait planté un pommier même en sachant que le monde allait se périr le lendemain. Et nous plantons des petites juveniles de la grande mulette en attendant qu'ils vont repeupler d'abord la Vienne et ensuite les autres fleuves en Europe.